pour un son.
Pour un son, Bertrand Michaud, Alexandre Lemierre.
C'est à l'occasion d'un moment d'égarement que nous l'avons rencontré pour la première fois sur grand écran aux côtés de Victor Lanoux et de Jean-Pierre Marielle. On l'a retrouvé 6 ans plus tard dans un film devenu culte dont le titre lui est devenu une expression pour les comédiens, faire son tchao pantin, dit-on. Elle l'a fait pour de vrai, donnant la réplique à Coluche et Richard Anconina. Et puis les films se sont enchaînés, la libérant. Elle tournait avec Yves Boisset, Denis Granier-Defer, Marco Ferreri, Jean-Marie Poiret, Margaret Van Trotta, Claude Lelouch, Alexandre Jardin, Jean-Pierre Mocky, entre autres. Elle se montra aussi dans le petit écran avec pas moins d'une 50aine de téléfilms ou d'épisodes de séries. Sur les planches, elle joua du Duras, Brecht, Tennessee Williams, Sagan, avec des mises en scène de Jérôme Savary, Gérard Lozier, Charlie Couture, Éric Métayer, Jean-Luc Moreau. Son nom, vous le connaissez, un nom de famille associé aussi à une autre personnalité publique, sulfureuse et contestataire, polémiste et antisémite notoire, son frère. Là est le sujet de son livre à elle, Frangin, paru chez Michel Lafon. Un nom à partager avec celui avec lequel elle ne partage plus rien depuis plus de 9 années, si ce n'est le silence de l'absence, ce malaise prenant ses aises dû au non-dit entêtant de l'éloignement. Aujourd'hui, elle a choisi de mettre des mots par écrit, à défaut peut-être de cris sur ces mots, pour parler de lui, d'elle, de deux, raconter d'où ils viennent et tenter de comprendre comment lui aussi est tombé un jour dans un long moment d'égarement, s'est transformé en pantin de ses supposés illusoires et paranoïaques idéologies, comprendre le tchao qu'il a lancé à sa famille, telle une gifle affligeante que l'on s'inflige et inflige, un geste sans droit de réponse qui questionne, à l'image d'un homme qui semble s'être perdu de trop vouloir se chercher, refusant dans sa fuite de se retourner tout autour tant que de se retrouver.
Pour un oui, 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 oui. Pour un oui, pour un son.
Bonjour à tous, vous écoutez Pour un oui, pour un son, avec aujourd'hui Agnès Soral.
Pour un son.
Bonjour Agnès Soral.
Bonjour, d'abord je voudrais vous féliciter pour cette présentation, je trouve ça très agréable, très bien écrit. Voilà, je trouve voilà, très bien ce que vous venez juste d'écrire.
Merci beaucoup, je laisse, je ne dis rien pour en profiter pleinement. Comment allez-vous ?
Eh bien ça va pas mal, ça va mieux.
Mieux depuis que vous avez écrit le livre ?
Oui, oui, j'ai vraiment fait une plongée, pendant ce livre dans le terreau dans lequel nous avons poussé, dans lequel nous nous sommes retrouvés avec ce frère sous la tyrannie de ce père incroyable et truculent et attachant en même temps et repoussant parfois, et sûrement c'est ce père qui a disparu, enfin est mort, et son absence, cette mort m'a permis moi de me reconstruire sur cette enfance cabossée. C'est ce livre justement, je l'ai posé aussi pour mes deux filles en me disant voilà, j'en parle une bonne fois pour toutes, comme ça elles pourront le lire un jour si ça les intéresse.
Et c'est pour poser la chose, pour passer à autre chose.
Pour passer à autre chose, et puis aussi c'était pour éviter de ressasser. Le ressassement en solitaire est quelque chose de qui souvent devient un peu puéril parce que c'est pas articulé, c'est plus angoissant, alors que l'écriture, on est obligé d'aller plus profondément, même s'il y a beaucoup de pudeur, puisque je reviens sur cette enfance cabossée, mais quand même avec pudeur. Je me suis pas vautrée dans l'exhibitionnisme non plus. J'y ai gardé de l'humour parce qu'avec recul, on peut en rire d'avoir une enfance romanesque. Donc, oui, je vais mieux.
On va vous faire écouter des sons tout au long de l'émission, c'est le principe. Le premier devrait vous rappeler quelques moments de votre vie, Agnès Soral.
C'est toi qui habites en ville ?
Thierry Lafonde. Et toi, comment tu t'appelles?
Isabelle, tiens.
Tu t'appelles Isabelle?
Ben oui, je te connais bien. Je t'aime beaucoup, moi.
C'est vrai?
Oh oui.
Partir, c'est mourir un peu, c'est mourir à ce qu'on aime. Me laisse un peu de soi-même en toute heure et dans tout lieu.
Bien, alors, roman, et puis voici que Jean et Dernali apparaît avec l'enlèvement et... Non pas sur la couverture, mais enfin à l'intérieur, il y a marqué aussi « roman ». Alors je me dis, votre enlèvement, parce que c'est le titre du livre, c'était donc du roman.
Vrai roman, oui, mais roman vrai, dans la mesure où il y a très très peu de différence entre ce que je raconte et ce qui s'est passé réellement. Mais une différence fondamentale pourtant. Le fait divers existe d'un côté et le roman de l'autre. Alors, le fait divers est vrai. En 1969, j'ai été séquestré pendant 3 jours par les Black Panthers.
Les envahisseurs, des êtres inconnus venus d'une planète en train de mourir. Leur destination, la Terre. Leur dessein, en faire leur univers.
On rappelle cette rue du Bourg-l'Abbé, née en 1885, 1978, ça devient un temple de la nuit. Les grandes années 80-90, ça décline à partir de 2000, le départ de David Guetta. 2010, ça ferme carrément.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end.
Et voilà que, après 2 ans de travaux, eh bien, réouverture, c'est Jean-Pierre Marois. En fait, la famille est propriétaire du bâtiment depuis les années 60. Il a fait appel aux architectes Vincent Bastier, Denis Montel et Tristan Hoare. Donc, déco, c'est marrant, c'est mi-19e, mi-contemporaine. On retrouve l'esprit bain-douche d'une certaine manière, puisqu'on a les bains Guerbois, c'est le nom originel. On a véritablement quand même un spa aujourd'hui à la place de ces bains-douches, mais le décor est reconstitué à l'identique. Et on y ajoute 39 chambres et suites avec un appartement terrasse de 80 mètres carrés.
Ça devient un spa, un hôtel.
Le bar, il y a tout ce qu'il faut.
Et un restaurant.
Le restaurant.
Bientôt peut-être.
Bientôt peut-être.
Et une boîte. There's a lady who's sure. All that glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. Et ben alors, c'est déjà fini?
Incroyable, avec la voix de Zabou Breitman, je crois.
Exactement,
qui était l'enfant de l'auteur.
Non, Thierry Lafronde.
Ouais, de Thierry Lafronde.
Beaucoup de choses différentes que l'on retrouve dans votre livre, Frangin. Des parcelles sonores de l'enfance ou de l'adolescence. Le générique de La Piste aux Étoiles, dont Thierry Lafronde. Chanson de l'adieu, Partir c'est mourir un peu, d'Edmond Arancourt, dont vous parlez. Jean-Éder Dernalier, on va y revenir un peu plus tard, vous l'avez croisé. Les Envahisseurs, reportage sur les mains douches, tout ça sur des musiques dont vous parlez aussi, les Pink Floyd, les Doors, Led Zepp. Vous avez croisé un jour Jean-Claude Drouot qui jouait Thierry Lafronde dans la rue, vous étiez petite fille.
Oui.
C'est très mignon cette anecdote que vous racontez.
Oui, j'ai couru après, parce que je l'ai reconnu, il était en patte d'éléphant, et j'ai demandé pourquoi il n'avait pas sa tenue. Alors, il était adorable, très beau, moi j'étais pas attirée par sa beauté, c'était plus ce qu'il représentait comme personnage, bien entendu, parce qu'à 4 ans, on est peu attirée par les garçons de ce côté-là, et de cette façon-là, je veux dire. Et donc, il m'a dit, en fait, non, je joue. Et je me suis dit, oh, un adulte qui joue. Et je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Je veux pouvoir jouer toute ma vie.
Et puis Jean-Éder Nallier, vous êtes retrouvé chez lui alors qu'il était censé avoir été kidnappé.
Alors, je sais pas si c'était chez lui, c'était dans un lieu, en tout cas,
où il n'était pas pour de vrai kidnappé comme il l'avait fait.
Et voilà, absolument, absolument. Et
avec votre frère.
C'est mon frère qui le côtoyait, donc j'avais suivi mon frère et c'était assez drôle, quoi, de. Voilà, il aimait bien manipuler les médias et se faire de la pub. Et c'était un monsieur qui avait toujours un peu de la bave au coin des lèvres, comme les chiens enragés. Il était toujours en colère de tout. Il avait une espèce de voix placée un peu dans la colère, un peu comme quelqu'un qui parle un petit peu avec le cou tendu comme ça et qui est tout le temps en train de, même quand on est d'accord avec lui, par exemple. J'avais remarqué ça.
Et puis la période des bains-douches, vous écrivez dans votre livre « Ce bain de monde et la musique nous évitait d'écouter nos angoisses, nous soulageait de nos vieilles douleurs, on y noyait nos solitudes avec tous les potes interchangeables pour échapper à nous-mêmes. » Vous avez vécu un peu la nuit comme ça, c'était pour justement ne pas mettre à jour peut-être vos douleurs de l'époque ou passées.
Oui, moi je sais que je m'enivrais de danse puisque je vivais pas et j'étais insomniaque, donc je trouvais ça beaucoup plus cool d'être en train de danser avec plein de gens et c'était ça.
On vient à peine de commencer l'émission et déjà nous écoutons Miossec qui va nous chanter « On vient à peine de commencer ».
Et on l'a comme pas vécu, ou peut-être pas assez, pas comme on aurait dû. Peut-on encore imaginer de nouvelles étendues, des rivières à traverser, et même des fleuves en crue? C'est pas fini, on vient à peine de commencer, c'est pas fini, on peut encore se retrouver. S'est-on ramassé, je ne me rappelle plus. Est-ce qu'il a bien pu clocher à un moment, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'on aurait peut-être dû prendre le temps de souffler, de profiter de la vue. C'est pas fini, on vient à peine de commencer, c'est pas fini. Se retourner, c'est pas fini. On peut encore se réparer. La vie, elle a passé et on l'a comme pas bien vu. Les années ont filé beaucoup plus vite que prévu. C'est pas fini. C'est pas fini, on peut encore se retourner, c'est pas fini, on peut encore se raccrocher à la poésie.
Soral, pour un oui, pour un son.
Agnès Soral, votre livre s'appelle Frangin, mais il parle de votre famille, beaucoup de votre papa, vous nous en parliez déjà un petit peu tout à l'heure. Intelligent mais colérique, impulsif, parfois violent. pas très sympathique aux yeux des lecteurs quand on referme votre livre. Il a épousé votre mère, dites-vous, pour se remettre d'un chagrin d'amour et avoir une maison tenue. Un peu plus loin, vous dites, lui qui n'avait jamais reçu de ses parents ne serait-ce qu'une claque, nous administrait souvent des coups de ceinture ou des fessées déculottées. Et puis il y a pas mal d'histoires assez cruelles d'humiliation de lui envers vous et ses deux autres enfants.
Alors ce qui est amusant, enfin... je ne sais pas si le terme est bien choisi, c'est que j'ai une cousine qui m'a appelée en me disant merci pour ce livre, qui est la sœur du frère aîné de mon père dont je parle, qui a été prisonnier de guerre en Allemagne, et qui m'a dit ça m'apporte un éclairage, car en fait notre grand-mère paternelle a parlé d'humiliation que lui faisait subir son mari, et c'est une chose que j'ignorais totalement. Et donc, c'est un nouvel éclairage que j'ai en dehors du livre, de se dire qu'en fait, ma grand-mère paternelle était un petit peu rabrouée par son mari aussi, et avait donc donné dans l'éducation, par son exemple, l'humiliation.
Et en même temps, vous dites de lui, il était cruel et despote, mais il avait une vraie volonté de transmission, c'était difficile de le détester.
Exactement, oui, parce qu'il pouvait être attentionné, en tout cas attentif à notre réflexion, à nous nourrissant de d'apprentissage technique, technologique. Par exemple, je trouvais très peu misogyne, paradoxalement, misogyne avec ma mère, enfin en tout cas dur avec la mère, c'est-à-dire la femme, sa femme. Mais en tant que fille, j'ai pas eu l'impression d'être éduquée. Sauf quand on disait qu'on me marierait bien, mais en tout cas, j'avais le droit au bricolage, j'avais le droit, et ça, j'ai vraiment apprécié. J'ai pas été formatée à porter du rose et
à jouer à la poupée.
Et voilà, j'avais le droit de bricoler, et j'apprenais, j'ai appris à me servir d'une perceuse. Enfin, c'est fait partie des choses que j'ai trouvées agréables quand même. Hein.
Vous êtes une as de la perceuse désormais.
Oui, quand vous même, avez besoin de faire une petite...
Nous en parlerons juste après.
D'accord.
J'ai un petit souci de perceuse en ce moment. Vous parlez aussi de votre maman qui a fait une dépression après votre naissance. C'est pas le terrain familial le plus idéal quand on arrive. Vous en parlez un petit peu moins de votre maman. Elle était violentée aussi, mais vous dites bien plus psychologiquement que physiquement par votre papa. Elle semble assez effacée et pourtant une femme aussi comme votre père intelligente. Elle a suivi des cours en cachette pour devenir dactylo, après clerc de notaire. Mais on la sent peu présente dans cette famille. En tout cas, vous en parlez beaucoup moins.
Alors, elle était très effacée. C'est vrai que comme mon livre... questionne sur ce que est devenu mon frère. C'est vrai que le père étant avec des similitudes, enfin je trouvais que c'était du coup l'écriture est allée ce que je disais tout à l'heure, des fois on écrit et on se rend compte de ce qu'on écrit ensuite. C'est comme si on était en transe, et c'est vrai que le père est tellement important, il écrasait ma mère.
Et puis un jour, vous racontez, vous êtes en pension, vous faites une chute, vous devenez aveugle pendant quelques jours. Ils ne viennent pas vous voir, ils vous demandent même pas à vous parler au téléphone. À la fin de cette année-là, vous faites un spectacle, comme font les enfants, ils viennent pas vous voir. On vous sent assez isolé, jeune, par rapport à l'amour que l'on peut attendre d'un père et d'une mère. Est-ce que ça fragilise ou est-ce que ça rend encore plus fort ?
Moi, j'ai l'impression que très vite, je me suis dit qu'il fallait que je me débrouille.
Donc ça
j'ai appris. Moi, ça m'a.
Et...
Alors, je dirais pas endurci parce que ça fragilise quand même, mais en tout cas, j'ai très vite réussi à m'apporter ce dont j'avais besoin et à prendre soin de moi, quand même.
Devenir autonome beaucoup
voilà,
plus vite.
Très très vite.
Et puis il y a beaucoup d'interprétations psychologiques dans votre livre sur les agissements, les répercussions des événements. Il y a même un vocabulaire psy. À un moment, il y a un chapitre qui se nomme « Ma résilience secondaire », ce qui est assez joli. On imagine que le livre est aussi le fruit d'années sur un divan, voire de multiples divans.
Oui.
Il y a un lien évident, il semble, entre
un
travail sur soi-même et le résultat qui est.
Je ne me serais jamais autorisée à avoir des enfants. Si j'avais pas fait ce travail-là, j'aurais eu trop peur par mimétisme, de faire pas correctement.
Je vous propose maintenant qu'on se balade, une petite balade sonore dans une partie de votre filmographie.
Moteur.
Arthur, 37, 2e.
Inès, je pensais à un truc.
Oui.
On pourrait faire un petit dîner avec des amis à la maison.
Quels amis?
Je sais pas, Alan et son frère par exemple. Je pourrais faire un petit lapin chasseur avec des petites carottes.
Je comprends pas comment tu peux prendre une décision aussi grave sur un coup de tête.
Oui, ma vénérable épouse aurait préféré que je me fasse harakiri, que je commette un suicide avec des baguettes.
Yeah. Écoute, on peut pas discuter avec toi, t'es complètement bourré, mon pauvre ami.
Moteur.
Je voudrais savoir si c'est possible de faire le tour du monde avec pas beaucoup d'argent. Vous croyez que c'est possible? Si entre les Seychelles et Hong Kong, je fais un stop de 3 jours à Singapour, est-ce que ça rentre dans mon budget?
Tu as un amant à Moscou, hein, c'est ça? C'est pour lui que tu veux y retourner?
Mais arrêtez de délirer! C'est mon pays et je l'aime! Et j'ai jamais dit que je viendrais avec vous! Et puis je me dois à mon public!
Et alors, le public est partout! Pour le rock and roll! New York, y'a pas mieux! Fais confiance à Yuri! Je t'occuperai de toi! T'as pas comme ici!
C'est pas pour lui faire confiance, j'ai fait confiance, je vais terminer par les yeux de pute!
Faudrait que tu refuses les clients.
De quoi je me mêle? Faudra t'en faire qu'à la fin de la journée, j'entends avec qui je veux.
Mais pour qu'elle se prend celle-là?
Non mais ça se passe pas comme ça.
J'ai une réputation à tenir, moi.
Ah, donne-moi ça. Je vais rester ici pour voir comment tu turbines.
Cache-toi, Véhico, tu vas faire fuir mes clients.
Tu lui dis que c'est 40 euros la passe. Un missionnaire et pas d'extravagance.
À ma vie, y a pas de risque, hein.
Mais c'est pas une chose qu'on fait sans en parler.
Papa, c'est pas facile d'en parler avant, c'est une chose qu'on fait dans l'instant, au moment où l'on a envie.
Tu lui as parlé? Non. Il est complètement à cran. Mais va lui parler. Allez.
Quand les nuits sont trop longues, quand le sang tourne en rond, dans les vapeurs des sens, y a des rêves qui s'embrument, des envies qui se balancent et des moteurs qui fument.
T'as pas un mouchoir pour que j'enlève mon rouge?
Ah mais ça me dérange pas, moi.
Oui, moi ça me dérange parce qu'après j'en ai plein la gueule, il faut que je m'en maquille.
Attends, t'es sûr que tu veux pas que je t'embrasse avec le rouge? Parce que moi je préfère, c'est...
Écoute, je t'ai dit non. Si tu veux, on s'embrasse pas, hein.
Ah si. Tu mets jamais de jupe, toi.
Quoi, il te plaît pas, mon pantalon? Je l'ai pas encore enlevé, tu sais.
Si, il est bien.
Quand les nuits sont trop longues, quand le sang tourne en rond.
Très belle bande.
Éclectique.
Oui, j'avais du mal parfois à
reconnaître les films.
Reconnaître, oui.
On a entendu un extrait du court-métrage Des Arêtes dans le Beefsteak, Drôle de genre, téléfilm de Jean-Michel Carré pour Arte, Homme, femme, mode d'emploi de Lelouch, I Love You, film très étrange de Marco Ferreri, Twist Again à Moscou, Jean-Marie Poiret, L'Incruste, Un moment d'écarrement forcément, Claude Berry, Bleu comme l'enfer, Yves Boisset et Ciao Pantin avec Charlie Couture chantant Les nuits sont trop longues. Un moment d'écarement, Berry vous a choisi parmi 250 filles.
Oui, bah c'est normal quand on est une quand on prend une jeune fille, je pense qu'il faut il faut taper large.
Il vous a dit pourquoi vous?
Alors, j'ai d'abord été présélectionnée par la casting directeur. Ensuite, je l'ai rencontrée, il m'a fait m'asseoir, il m'a fait parler. Bon, je me souviens, j'étais habillée en tenue de plombier. J'avais une espèce de salopette de plombier rouge. Et donc, il me fait lire. Donc, je lis. Il me dit, écoutez, à moins qu'il y ait quelqu'un qui arrive sur un cheval, là, à l'instant, c'est vous. Alors, je dis, bon, ça va. On est, je sais plus, au deuxième ou troisième étage. C'est rassurant. Voilà, j'ai failli pas faire le film, en fait, parce que je suis tombée très malade. Et il a reculé le film pour que ce soit moi. Et donc voilà, c'est la vie. Je pensais pas faire du cinéma, moi, je pensais plutôt faire du théâtre.
Vous en avez fait aussi?
Oui, mais J'aspirais à être dans une troupe de théâtre, en fait. Donc voilà, cinéma, j'avais pas vu grand-chose, en fait. J'avais pas d'argent pour aller au cinéma, j'avais pas d'argent de poche, donc mon père m'avait amené voir le bal des vampires à 12 ans.
Vous regardiez pas les films?
Bah avec mon père c'était difficile hein, de suivre un film correctement.
Ah oui, vous l'expliquez.
Je l'explique.
Il éteignait à un moment, il en avait marre.
Ouais, c'est comme un gamin quoi.
Et du coup avec votre frère, vous faisiez croire que ça ne vous ennuyait pas. Bah ça tombait bien, on voulait aller se coucher
voilà,
justement.
Il faisait des commentaires.
Ah oui, c'est très agréable.
C'était derrière le poste et il faisait ses dialogues où il faisait « Ah oh, bah oui !» C'était un truc d'amour, alors il prenait une voix de crétin, il faisait « Oh, je t'aime mon chéri !» Ah oui!
Ah oui, sur la route de Madison avec votre père, ça doit être chouette. Ça
va
être beau.
Pour un oui.
C'est Agnès Soral. Pour un oui, pour un son.
Pour un son.
Et pour revenir à Tu vois Pantin, je voulais quand même qu'on en parle un peu parce que film très important. Vous gardez quoi comme souvenir du travail avec Berry et Coluche sur le tournage?
Alors, travail avec Berry. Berry, c'était quelqu'un de très tyrannique. Il fallait toujours qu'il maltraite quelqu'un. Coup de bol, c'est pas tombé sur moi. Parce que je le maltraitais un peu. C'est-à-dire, si quelqu'un, je lui adressais pas la parole.
Pourquoi?
Parce que je le sentais maltraitant. Et qu'à l'époque, j'étais...
Vous attaquiez avant d'être attaqué?
Non, je l'attaquais pas. Je le calculais pas. C'est quand même marrant, parce que j'ai quand même fait 3 films, hein, grâce à lui. Oui, il fallait toujours qu'il s'en prenne à quelqu'un.
Et c'était qui, sur Tu vois Pantin?
C'était Anconina. Qui en a chié des ronds de chapeau. Donc voilà. Donc ça a été un amour impossible. Ça aurait pu être mon père spirituel. Mais comme j'avais un instinct contre la maltraitance, il était très gentil avec moi. Hein. Il y a des gens avec qui je sentais qu'il fallait pas que j'aille travailler, même si ça m'aurait fait un beau palmarès sur mon CV. Je me disais, cela, c'est même pas en rêve. Lui, il était quand même gentil avec moi. Mais je sentais qu'il fallait que ça glisse, quoi, sur, il aimait bien ma manière de jouer. Donc ça, c'était plutôt bien. Quant à Coluche, c'était un rigolard qui pouvait faire comme s'il était un gros feignant en disant, bon, bah non, moi, je pense qu'on l'a,
Mais il était rigolard à l'époque, on a beaucoup entendu que c'était une phase difficile pour lui et
oui,
que le personnage n'était pas si éloigné de ce qu'il vivait dans sa propre vie à l'époque.
Non, c'est pas vrai. Moi, je passais beaucoup de temps avec lui, on se marrait tout le
temps.
Donc
il était en forme à l'époque.
Je dis pas qu'il était en forme, je dis qu'on se marrait tout le temps. Il fumait beaucoup de joints, ça fatigue, il prenait de l'héro, ça fatigue, il sortait beaucoup, ça fatigue, il y avait beaucoup de fêtes, ça fatigue. Mais c'est ce qu'il disait. Il disait, attends, je me suis pas drogué pendant 40 ans. Je peux passer par cette petite phase. Je pense que s'il était pas mort, il était sorti de cette phase d'ailleurs à ce moment-là. On peut être déprimé et peut-être probablement qu'il l'était, mais il ne le montrait pas.
On a retrouvé une archive à un moment dans le film. Vous allez à un concert de Gogol premier. Je propose qu'on l'écoute parler du tournage.
Ouais, c'était inespéré parce que. Disons, bon, moi j'aimais beaucoup Coluche, ouais. Et là il me propose de faire un film avec Coluche, un film intéressant, tourné au Gibus, avec une scène où je pourrais chanter, où je pourrais faire exactement ce que je voulais. Et donc ce soir-là, on tourne. En fait, c'était un chanteur qui s'appelait Bébé d'un groupe qui s'appelle Les Porte-Manteaux, et il sortait donc avec la sœur de Jean-Louis Aubert. Et. Elle aurait estimé que lui devait être sur scène à ma place. Ouais. Elle prend un os qu'elle avait récupéré au catacombe, elle le jette, je prends l'os dans la gueule, paf, ouais. Et je me retrouve à l'hôpital. Donc il me recouse, et bon, je reviens de l'hôpital et Claude Berry me dit bah, la fête n'est pas finie, on recommence toutes les scènes parce que c'était plus raccord.
Ah ouais.
Voilà.
C'était une interview à Cardisson.
Ah oui, d'accord, je me souviens effectivement de. Moi, je me suis fait piétiner pendant la scène, parce qu'on pogotait. À un moment donné, je suis tombée, et les gens continuaient à sauter, à pogoter. Et j'ai eu une petite côte fêlée, et plein de bleus. Moi, je me suis mise en boule tout de suite, hein, je me suis protégée, mais la cage thoracique n'est pas une bonne protection. Faudrait d'ailleurs faire une petite demande à Dieu.
Il y a des progrès à faire là-dessus.
Ouais, c'est pas assez solide.
On va écouter Curtis Harding tout de suite, c'est pratique parce qu'on ne peut pas du tout pogoter sur sa musique. Ça s'appelle Next Time, aucun danger, on l'écoute. Vous écoutez Pour un oui, pour un son sur la première jusqu'à midi. Agnès Sorel est notre invitée. Elle vient de sortir Frangin chez Michel Lafon. Agnès Sorel, c'est une prof de français, la première.
Livre, hein, parce qu'on pourrait penser que c'est un... Non, parce qu'elle vient de sortir...
Frangin, un album.
C'est pas un album, c'est un livre.
D'accord. Avec voilà. Des pages, des
avec des pages.
Je disais, la première qui vous a vraiment motivée, c'est une prof motivée à devenir comédienne. Elle vous a dit, ne laisse pas tomber, tu es douée, c'est une prof de français.
Oui.
Et en revanche, votre père ne vous a pas trop motivée quand vous avez été le voir en lui disant que vous vouliez vous inscrire au conservatoire d'art dramatique de Grenoble. Lui, vous a répondu, ma pauvre fille, tu n'es même pas jolie, est-ce que tu crois qu'on t'attend?
Voilà.
Toujours compliqué le rapport entre le monde extérieur, parfois bienveillant, et le cercle familial qui met une petite claque derrière.
Voilà, oui, j'ai toujours... ça m'a pas empêché de le faire, je vais pas leur en vouloir. J'ai quand même fait. Mais c'est vrai que j'ai pas été très encouragée.
Pas très soutenue.
Même pour écrire, hein, d'ailleurs. Enfin, je fais pas mal de fautes d'orthographe, j'ai toujours écrit, hein. Et je n'ai pas été encouragée non plus de ce côté-là. Yeah. Je me demande d'ailleurs pourquoi j'ai été encouragée.
Le premier vrai contact avec le cinéma, vous le racontez, c'est drôle, c'est grâce à votre cousine Aurore. Ça se passe dans une salle d'attente. Elle faisait quoi, Aurore? Parce que vous dites que c'est la salle d'attente de son agent.
Elle était mannequin. Donc je savais pas qu'elle avait fait partie d'une série. Et moi, je me suis mise à faire un exercice de clown dont je me souvenais que j'avais vu.
Pendant que vous l'attendiez dans la salle
d'ailleurs, qui était un Allemand dont j'ai oublié le nom et d'ailleurs j'aimerais bien retrouver son travail parce que pour voir si ça colle avec ce que je faisais, ce que j'arrivais à faire. Donc c'était un personnage qui s'endormait sur sa chaise, qui piquait du nez, puis de plus en plus fort et qui au bout d'un moment était vraiment dans le sommeil, mais dans le rêve. Et donc il fallait tenir en équilibre sur la hanche et puis se détendre. Et à un moment il cherchait un appui plus confortable avec sa tête. Il se rendait compte qu'il était dans le vide, le personnage, et tombait, et se relevait, repiquait du nez parce que la fatigue était... Et donc en fait j'étais dans l'exercice, il y avait une secrétaire donc que je regardais pas, mais je un petit peu exhibe, je le faisais pour elle. Et à l'époque, ça faisait tap-tap-tap les ting quand on changeait de page. Et au bout d'un moment, j'ai senti que je l'avais attrapée. Voilà. Et elle est venue vers moi me proposer un café. Je lui ai dit non, pourquoi? Voilà. Et en fait, c'était un agent de comédien. Elle était comédienne. Elle m'a demandé qui j'étais. Je lui ai dit, je suis travailleur émigré. Et elle m'a dit bonjour, je m'appelle Sandrine Romero et je suis ringarde du métier. Et au bout d'un moment, elle m'a demandé si elle pouvait s'occuper de moi en tant que comédienne.
Et ça a commencé comme ça, donc un peu totalement par hasard.
Alors là, c'est ce vraiment... Jour-là. Mais j'étais persuadée que ça m'arriverait, je ne sais d'où, mais... voilà, je savais que ça m'arriverait.
Votre livre, c'est un livre, s'appelle Frangin, votre frère c'est Alain Soral, retour sur le parcours d'Alain Soral en son.
La vie du rail en un seul mot, avec de la vigne en trois mots, de la vigne et Alain Soral.
De Soral.
Et Alain Soral, écrivain et même humoriste.
Il y a un monsieur qui gesticule depuis une heure et qui n'a pas l'air content. Qui êtes-vous, monsieur?
Je suis Alain Soral.
Pourquoi vous êtes là dans le public, monsieur sociologue?
Je crois que les chiennes de garde ont dit qu'elles s'opposaient à ma venue sur le plateau. Et comme moi, ça ne me gêne pas d'être dans le public, que je me sens proche du public. Je veux bien rester dans le public. Si je peux exprimer deux, trois idées.
J'ai déjà eu affaire à ce monsieur sur plusieurs plateaux de télévision.
Bien sûr, à des émissions sérieuses, d'ailleurs.
Dans lequel il parle des femmes en parlant de pétacisation de la société. Il y a pas ce genre de termes.
Oh, le ringard, mec.
J'aime en regarder.
la connaissez?
À peine. 75 000 gonzesses pour qui Paris, c'est la capitale mondiale de l'amour. Et cet amour, t'es là pour leur donner.
Ça a pas la tête. Obsédé.
Conclusion, l'expérience nous apprend que non seulement les belles sont plus agréables à draguer, mais qu'elles sont aussi plus faciles à...
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'ai des relations assez sereines avec souvent avec les femmes. Elles ont lu en moi, parce que les femmes sont intuitives, le côté enfant paumé et en même temps le côté, le parcours intellectuel qui leur fait deux raisons de me respecter, parce que j'étais un paumé et parce que j'ai beaucoup réfléchi.
Le maximum du style philosophique pour moi, c'est Hegel. Donc c'est la philo, ma formation, et la poésie.
Alors Alain Soral, vous êtes journaliste, écrivain, cinéaste. Vous venez d'ailleurs de sortir un livre qui s'appelle Le jour et la nuit, ou La journée d'un vaurien.
Ou La vie d'un vaurien.
La vie d'un vaurien, pardon. Ce n'est pas rien de parler de soi en disant vaurien.
Et moi, quand je drague, j'aime, je le savoure comme une déchéance.
Proust m'emmerde... relativement, on va le dire, quoi, c'est la bourgeoisie juive qui fait de la littérature, quoi, donc il y a une vulgarité quelque part du style le proustien qui m'insupporte.
Quand j'étais petit, je jouais à la poupée, j'ai toujours eu du mépris pour les garçons qui jouaient avec des petites voitures.
Vous, la relation à votre mère, c'était une relation d'amour ou de haine ?
Moi, j'avais un manque très fort, c'est-à-dire que j'ai pas eu la mère que j'aurais souhaité avoir ou je sais pas quoi, et donc je suis arrivé dans la grande ville sans un rond. C'est-à-dire capital financier zéro et capital affectif aussi, je dirais près de zéro. Zéro, 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 zéro.
Alors, monsieur Soral, vous allez comparaître pour avoir fait une photo de Quesnel au mémorial de la Shoah à Berlin. Comment vous vous sentez avant cette audience?
Bien, il fait beau aujourd'hui. Et on va aller sur le terrain du droit pour démontrer que la plainte n'a aucune validité. Voilà. C'est fou. Il n'y a pas de texte de loi qui interdit ce geste-là, quoi.
C'est un communiqué de la LICRA.
Oui, mais la LICRA, c'est pas le droit français. C'est pas le cerveau malade de Jakubowicz ne fait pas le droit.
Ça n'explique rien. Devant ce mémorial qui a été érigé en Allemagne pour reconnaître les fautes des Allemands, par les Allemands en plein milieu de Berlin, pour penser aux morts, ils ont pensé à quoi en faisant des gestes pareils? Ils pensent à quoi? Est-ce qu'ils pensent à leur mort? Est-ce qu'ils pensent à tous ceux qui ont disparu pendant la guerre? Ils pensent à quoi? Ils pensent pas aux morts, c'est pas vrai. Ils pensent pas à nos morts. Ils ne pensent qu'à des bêtises, qu'à des provocations de toute la presse. C'est à ça qu'ils pensent, que toute la presse va parler d'eux. Et ça, je ne le comprends pas.
Waouh, quelle bande son. Quelle bande son. Eh oui, on ne choisit pas sa famille.
Parcours d'Alain Soral, on l'a entendu au départ dans des émissions télé de Michel Field, de Christophe de Chavannes, puis un extrait de son film Confession d'un dragueur qui était tiré un mélange de deux de ses livres, Sociologie du dragueur et La vie d'un vaurien. Un peu plus tard chez Mireille Dumas, qui parlait des relations avec sa mère, et puis ses débuts de dérapage jusqu'aux sorties de route les plus violentes. Sa quenelle devant le mémorial de la Shoah, et puis pour terminer, le témoignage d'une ex-déportée venue témoigner contre lui. Ça fait quoi quand même d'entendre tout ça et de voir son évolution? C'est étrange parce que dans votre bouquin, on a l'impression que c'est juste un sale gosse malheureux qui a pas trouvé sa place.
Je pense que c'est un sale gosse malheureux qui a pas trouvé sa place profondément, oui. Il reste celui-ci, drapé dans une mémoire, dans une posture brillante, avec un soupçon de perversité, un gros soupçon. En tout cas, je le soupçonne. Et en même temps, il se campe dans une fierté et il n'y a pas de remise en question. Et je pense qu'il s'est coincé lui-même dans cette posture.
Justement, à un moment, vous dites quelque chose d'intéressant.
C'est une imposture pour moi, ce qu'il fait actuellement. Voilà, pardon.
Vous dites qu'il rassemble les mécontents, les révoltés, les râleurs, qu'il hypnotise par son débit de parole l'utilisation de références historiques falsifiées. Et pour se protéger et canaliser leur agressivité, il désigne une cible, un bouc émissaire, le juif. Les mots et les responsabilités dont il accable les juifs sont des détournements et des réécritures de l'histoire, ce que mon frère sait pertinemment. On en doute quand même, nous, en tant juste de spectateurs de ces interventions. Vous, vous êtes convaincu qu'il est conscient de l'absurdité de ses propos?
Moi, je crois que ce qu'il ne supporte pas, je le pense vraiment et de plus en plus, c'est qu'on interdise la parole, qui est une espèce d'interdiction de pouvoir parler de l'histoire. Ça, c'est sûr que ça l'énerve, mais ce serait sur n'importe quel sujet. Hein. On lui interdit quelque chose, c'est mort déjà. C'est quelqu'un qui déteste l'obéissance déjà. Donc si on lui dit tu peux pas parler de ça parce que ça va choquer ou que ça va faire du mal, il y va à fond.
Ouais, mais enfin, ça n'a plus de sens, parce que si on dit la pédophilie c'est pas bien, donc il va prôner la pédophilie.
Alors
c'est sans fin d'être contre.
Oui, c'est sans fin d'être contre. Alors bizarrement, c'était un des sujets qu'il avait, auquel il s'était attaqué, et c'est celui qu'il a lâché le plus. C'est ce qui m'a beaucoup déçu, parce que j'aurais préféré qu'il se batte pour la pédophilie et non pas pour contre la force, justement, qui a été mise en place pour éviter que on maltraite encore une fois les Juifs. Bien sûr qu'à un moment donné, je pense que ça tourne à la folie aussi.
Parce qu'être contre, c'est bien, avoir un esprit critique contre des choses nocives pour la société.
Oui, c'est bien, mais il y a un moment donné...
Là, c'est l'intolérance, ce n'est plus un esprit critique.
Voilà, là, ça lui sert à quoi, surtout?
Ça lui à sert se à faire quoi. Remarquer, et on a l'impression que c'est ça qu'il souhaite.
Ouais, mais là,
être
je pense
reconnu.
Là, je pense qu'il est. Ça y est, il est passé de l'autre côté, quoi.
Il est heureux, vous pensez?
Est-ce qu'on est obligé d'être heureux?
Est-ce qu'il a atteint son but, qui était d'être connu, quelle qu'en soit la raison?
Non, mais être heureux, c'est pas. C'est un terme de publiciste. Je pense qu'il a atteint son but, oui, d'être connu. En est-il heureux? Je pense pas que la manière dont il se comporte démontre c'est pas possible. Quand on est contre à ce point-là tout, quand on est révolté, le bonheur est impossible. Je pense que c'est quelque chose qui peut envisager philosophiquement, mais je pense qu'il a jamais éprouvé de bonheur.
Agnès Oral est notre invitée jusqu'à midi sur la RTS. On marque une pause musicale pour se détendre un petit peu. Voici Heidi Happy avec Who You Are et on se retrouve juste après.
Getting ready for the night. Wear the nicest dress I have. Putting my hair up for the dance.
Pour un oui, pour un son.
Agnès Soral, dans votre livre Frangin, vous dites, vous avez au moins un point commun avec votre frère. Vous écrivez, on séduisait pour exister dans notre besoin de reconnaissance, tous les deux.
Oui. Oui, lui, c'est aussi une forme de séduction à l'envers, hein, de choquer.
Et même, le détester, enfin.
De détester, ben, c'est un peu, c'est pour ça que je disais qu'il était plus punk que moi, c'est, que moi je ne l'ai jamais été, c'est-à-dire que de décider, détester moi, parce que je le décide, c'est aussi une manipulation de la séduction. C'est si je vous déplais, je l'avais décidé. Donc c'est encore moi qui dirige. C'est ça qu'il semble dire. Voilà. Il y a des choses qu'il dit sur le fait qu'il y a beaucoup de juifs au pouvoir ou qu'il y a des choses qu'on fait pour préserver justement la mémoire traumatisée de la Shoah. Mais c'est la violence avec laquelle il le fait n'est pas normale. Hein. Et on sent une méchanceté derrière. Et c'est ça qui m'ennuie parce que du coup, sa manière de faire interdit le dialogue et de reparler de l'histoire, renforce des gens comme la LICRA à censurer et donne raison à des gens, disons, à des gens comme lui qui disent « Regardez, on nous censure, donc il y a quelque chose de louche. » Et ça, ça me fait bien chier. Et c'est pour ça que je dis que moi, je suis contre la censure en général et je suis pour la prise de parole et d'abord parce qu'on est dans une démocratie donc et que je trouve que le fait de le diaboliser est dangereux. Mais c'est vrai qu'il est tellement fort en dialectique, en sémantique, qu'il est capable de détourner les gens. Et plein de gens ont peur aussi d'être humiliés par lui, parce qu'il est assez fort. Quand je dis c'est le Lucchini de la politique, c'est vrai que essayer, même si vous êtes professeur de littérature, de parler de littérature avec Lucchini pour en placer une, il faut, faut qu'il vous laisse le crachoir. Mon frère est un peu comme ça. Et beaucoup de gens l'ont un peu éjecté en pensant c'est pas grave, machin, etc. Et on voit qu'il y a une espèce de qu'il est devenu une sorte de typhon, que sa petite colère, son agacement est devenu de la rage, est devenu de la haine, est devenu jusqu'à avoir les yeux quand même assez exorbités. Et moi, c'est ça qui me fait peur. Je me dis, j'espère qu'il va se calmer. Qu'est-ce qui pourrait arriver pour qu'ils se disent bon j'étais trop loin, comme des gens vont trop loin et se campent sur leur position par fierté, par peur d'être humiliés, ils vont jusqu'au bout alors qu'en fait au départ c'était pas le chemin premier qu'ils auraient pris quoi. Voilà, pour moi c'est il s'est égaré réellement quoi.
Joël vous dit qu'on a eu une enfance comme la mienne, on a que deux choix, devenir victime ou bourreau. Est-ce qu'on peut dire qu'il est devenu bourreau et que
ah
vous,
il l'a dit lui-même.
Si vous n'aviez
dit,
pas travaillé sur vous, vous seriez devenu une victime.
J'étais, en tout cas, j'essaie d'être plus victime. Il y a quelqu'un qui m'a dit, bah dis donc, juste de faire ce bouquin, tu te mets en position de victime parce que tu vas te faire tirer à boulet blanc sur toi. Enfin, boulet blanc ou boulet rouge, j'en n'en sais rien. Mais en même temps, moi, je pouvais pas. La montée de l'antisémitisme, pour moi, c'est vraiment un cauchemar. Je pensais même pas que ça pouvait être possible. C'est comme si on me disait que l'esclavage allait revenir, quoi. Enfin, remarque, il est revenu dans certains
d'autres
pays.
Formes.
Non, il y a des femmes qui sont esclaves actuellement, qui sont vendues au marché aux esclaves. Voilà. Et c'est vrai que c'est un cauchemar.
Vous dites, vous avez écrit ce livre, l'écriture de ce livre m'a sauvé du désespoir. Aujourd'hui, vous attendez quoi de ce livre? Il existe? Il est rendu public?
J'aimerais que ceux qui écoutent mon frère se rendent compte qu'il peut avoir tort dans ses prises de choix, des prises de position, que c'est un gladiateur un peu pour rien, comme on aime se battre, donc on va se battre. Sur tout et n'importe quoi, mais surtout sur des choses qui sont peut-être pas pour des raisons d'équité ou de justice, mais juste pour le plaisir de se battre parce qu'on est trop de testostérone, parce qu'il y a un malaise, une névrose, etc. Et j'aimerais qu'ils pensent par eux-mêmes et qu'ils soient pas aveuglés par sa démonstration qui est toujours très habile.
Et surtout, tous les combats ne sont pas les mêmes et ne sont pas forcément bons.
Voilà, c'est ça. Pourquoi on se bat Se battre pour se battre, créer le chaos. Et donc,
pour les mauvaises raisons, les mauvaises valeurs.
Voilà, et quand on dit égalité, réconciliation, il n'a jamais été pour l'égalité. Deux, la réconciliation, il est vraiment en train de s'en éloigner. Là, pour le coup, il faudrait qu'il prenne des cours de diplomatie, quoi, s'il veut réconcilier les gens.
Un jour, il vous a dit, toi, quand tu seras morte, on t'oubliera, moi je serai dans le dictionnaire. Pas sûr qu'il soit un jour dans le dico. Vous, en revanche, vous aimeriez laisser quoi derrière vous, Agnès Soral?
Je m'en fous un peu, mais en tout cas, de mon vivant, il y a des choses où je sais pas, j'ai envie que, peut-être que je suis naïve, mais un petit peu plus de calme. Ouais, la paix, l'écologie. J'aimerais peut-être laisser un sourire.
Avant de nous quitter, trois questions que l'on pose à chacun de nos invités. La première est, à quelle question répondez-vous toujours oui?
Tu veux manger?
À quelle question aimeriez-vous que l'on vous réponde toujours oui?
Tu m'aimes.
Quel est votre son préféré?
Le silence.
Merci beaucoup Agnès Soral pour cet entretien. Je rappelle que votre livre paru chez Michel Lafon s'appelle Frangin et que vous serez dans quelques minutes, vous allez nous quitter pour rejoindre le salon du livre de Genève. C'est cet après-midi, vous serez où, à quelle heure?
Sur la scène principale, je crois, scène centrale. Et puis autrement, je dédicace les livres.
Donc, on peut vous retrouver tout à l'heure, juste après l'émission.
Voilà, à tout à l'heure. Alors.
Merci beaucoup.
Merci et bravo pour cette bande son et... C'était très agréable.
Pour un oui, pour un son, avec Le Matin Dimanche et ses magazines.
C'était Pour un oui, pour un son, à la réalisation et montage sonore Alexandre Lemierre. C'est François Piton qui a choisi les morceaux que vous avez entendus. Et Delphine Houdemont a filmé les coulisses de cette émission à découvrir sur le site de la radio
rts.ch.
Très bon week-end à l'écoute de la première. Et on se retrouve dimanche prochain à partir de 11h.